Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un mois de janvier sous le signe de la sobriété choisie. Comme c'est le cas dans d'autres pays européens, de nombreuses associations françaises se sont engagées depuis 3 ans dans cette campagne du mois sobre. Le principe est très simple, ne pas boire d'alcool, s'abstenir tout au long de ce mois de janvier, une pause, le temps d'une mise au point pour évaluer le niveau, la nature de sa consommation, se poser des questions et observer quelles sont les conséquences de ce changement. Quel est le ressenti, agacement, nervosité ou carrément agressivité? Est-ce que cet arrêt temporaire va se passer sans souci ou à l'inverse, révéler une forme de dépendance, voire carrément une addiction bien réelle? Au-delà des réactions, est-ce qu'il y a un effet particulier sur le plan physique, sur le sommeil, la fatigue ou la concentration? Bref, qu'est-ce que ça change au quotidien d'arrêter de boire sur une période donnée? Expérience volontaire, expérience temporaire, bien-être ou prise de conscience, impulsion, ce mois sobre peut être vécu très différemment. Mais cette initiative de santé publique se passe cette année encore sans le soutien des pouvoirs publics. Car contrairement aux campagnes anti-tabac, certains confondent encore art de vivre à la française et risques liés à une consommation problématique d'alcool. Signe que la prévention, l'action en amont de la maladie, doit encore convaincre, y compris du côté des autorités de santé. Moi, sobre, dry, January dans la langue de Shakespeare ou des Beatles, comment évaluer sa consommation d'alcool, vaincre son addiction? Des réponses, des pistes personnelles face à des parcours singuliers. Avec nous, docteur Jean-Pierre Aubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Paris, auteur de l'ouvrage « Histoire d'alcool » au pluriel, ces histoires. Peut-on en parler à son médecin? Aux éditions du CERF. Et puis en fin d'émission, on évoquera un tout autre sujet, un lancement de la plateforme Autisme et Sommeil, premier site d'information consacré aux troubles du sommeil chez les enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. On en parlera avec le professeur Carmen Schroeder, psychiatre au CHU de Strasbourg.
Priorité santé sur RFI.
Arrêter de boire pendant un mois, hein, non pas par obligation, mais par choix. C'est un petit peu ça l'esprit du mois sans alcool. Un défi, une opération, campagne de santé publique. Peu importe comment on appelle cela, c'est la 3e édition dans un pays comme la France. Ça dure depuis plus longtemps dans un pays comme l'Angleterre. Alors, votre regard personnel, hein, docteur Jean-Pierre Aubert, vous êtes médecin généraliste, vous soignez depuis des dizaines d'années des personnes concernées par ce qu'on appelle tout simplement la maladie alcoolique. On passe des bonnes résolutions du premier de l'an aux actes. Ça sert à quoi? D'ailleurs, est-ce que ça sert à quelque chose?
Alors, Je voudrais élargir les choses. Je pense qu'on parle un peu moins aujourd'hui de maladie alcoolique et on parle plus généralement et de façon plus précise de mésusage de l'alcool. Et je pense que pour ce mois sans alcool, c'est important de savoir qu'on parle non seulement aux gens qui se sentent malades de l'alcool, mais aux gens qui se sentent avoir un usage inadapté, inadéquat, un peu dangereux pour eux, de l'alcool. Et arrêter de boire pendant un mois, c'est utile pour soi, pour tester sa liberté. C'est aussi utile pour les autres. Quand je dis « je ne bois pas en ce moment », je fais prendre conscience aux autres de leurs difficultés éventuelles par rapport à l'alcool. Donc c'est un acte un peu militant et j'aime beaucoup cette action.
Alors, on peut dire qu'on a compris, l'esprit, c'est qu'il y a différentes façons de trop boire ou de mal boire. Cette difficulté d'en parler dans un pays comme la France, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein, Histoire d'alcool, docteur Aubert, ça veut dire quoi? Pourquoi tant de prudence, voire on a l'impression de timidité pour parler de ce qui est, tous les responsables reconnaissent en santé. C'est un problème de santé publique et pourtant, on y va vraiment tout doucement.
Alors, il y a à l'évidence des facteurs de lobbying dans notre pays qui sont relativement importants et les lois sur l'alcool et notamment le travail qu'avait fait Even en son temps ont changé des choses dans le rapport de ces producteurs d'alcool à la santé publique.
Et la loi Even du nom de l'ancien ministre de la Santé.
Excusez-moi. Ça, ce sont, voilà, quelque chose est en train de changer et je pense que probablement les lobbies de l'alcool sont moins puissants et moins efficaces aujourd'hui sur les hommes politiques, mais il le reste et ça reste évidemment un problème dans un pays pour qui l'alcool est une ressource économique absolument significative. En tout cas, l'autre facteur qui joue, c'est un vrai facteur culturel. On est dans un pays de souche chrétienne où l'alcool n'est pas interdit. C'est même, on en consomme même au cours
de la messe, de l'office.
Par conséquent, et on est un très grand producteur depuis longtemps. On est un pays de vignes et c'est quelque chose d'important. Donc, on a une tradition importante et on a une positivation du regard sur la consommation d'alcool, qui est une positivation très culturelle et très implantée dans notre façon de voir le vin.
En soignant des personnes qui ont, on va dire, une consommation problématique, on voit qu'il y a des parcours, des entrées, des conduites très, très différentes. Et, docteur Jean-Pierre Aubert, pour parler simplement, vous n'êtes pas partisan d'une approche du tout ou rien, c'est-à-dire l'abstinence comme seule solution. Et c'est de cela aussi qu'on peut peut-être comparer avec ce mois sans alcool. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter complètement, ça veut dire qu'on regarde déjà ce qui se passe, on essaye déjà de comprendre ce qui se passe.
Voilà, et on essaye aussi de regarder la façon dont on consomme. Aujourd'hui, la consommation d'alcool en France est en train de bouger, elle est en train de changer. On a toujours des consommateurs quotidiens d'alcool, des consommateurs excessifs, des gens qui sont malades physiquement de l'alcool. Mais si on regarde la façon qu'ont les jeunes de consommer de l'alcool, c'est tout à fait différent de celle qu'avaient les gens de 50 ans aujourd'hui quand ils en avaient 20. Il y a une culture de la défense. Et donc, on consomme de l'alcool dans l'idée d'aller au bout de l'ivresse. Et en général, on consomme de l'alcool avec d'autres produits addictifs, notamment du cannabis. Et donc, on est dans un moment de modification de la consommation d'alcool où il est important que chacun réfléchisse à quel est mon rapport à l'alcool. Et on peut être en difficulté par rapport à l'alcool, y compris quand on ne boit pas tous les jours. Je pense qu'un certain nombre de ces jeunes gens qui, le samedi, vont s'enivrer de façon excessive sont en réelle difficulté par rapport à l'alcool.
Et on va vous donner la parole au cours de cette émission. Un premier échange que nous avons enregistré juste avant le début de cette émission. On part pour la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et c'est donc à Kinshasa que l'on vous retrouve. Sacha, bonjour.
Bonjour.
Alors Sacha, vous avez 40 ans et vous nous avez appelé parce que vous considérez que vous avez un problème avec l'alcool. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce problème ?
J'ai constaté depuis, je pense, 2019, qu'à chaque fois que j'étais perturbée ou en face d'un stress important, j'avais une tendance à boire et à boire beaucoup. Ça pouvait être une bouteille ou deux bouteilles en soirée comme ça, parfois même très tôt le matin. Il y a comme cette envie pressante de boire qui fait passer, on va dire, les émotions, qui rendent les choses un peu plus faciles.
Et une fois que vous avez bu de cette manière un petit peu, on va dire, massive, vous vous sentez soulagée, vous vous sentez mieux ?
Non, il y a une espèce de culpabilité, surtout dans le cadre du travail. Dans le cadre de mon travail, je participe beaucoup à des événements mondains. Et je dois avouer que parfois, l'alcool aide à faire passer le stress, le fait de rencontrer des personnes. Mais après, la question, c'est est-ce que je me suis mal comportée ? Parce qu'il faut le dire, chez moi, l'alcool a tendance on va dire, à me rendre très gaie.
Ça vous rend euphorique. Donc, ça veut dire que vous avez une consommation aussi bien en compagnie avec d'autres personnes, vous disiez, dans votre cadre professionnel, qu'en solitaire, puisque vous disiez aussi tôt le matin à la maison.
Oui, c'est ça. En solitaire, le soir après une journée de travail ou à n'importe quel moment. Je vous parle vraiment d'une idée fixe dans la tête de boire.
Est-ce que vous arrivez à marquer des pauses dans votre consommation, Sacha ?
Oui, justement, il y a souvent comme une prise de conscience quand j'en arrive à un point où je me rends compte que je n'ai plus le contrôle. Et là, je marque des pauses et on va de une bouteille d'eau à zéro alcool. Je peux passer mon temps devant des gens qui boivent sans en avoir vraiment l'envie.
Pendant quelle durée ?
La durée la plus longue était un an. Et là, je viens de terminer. C'était une pause de 6 mois, depuis juillet de l'année passée.
Est-ce que vous avez identifié ces moments, on va dire, je ne veux pas un terme culpabilisant, où vous reprenez la consommation ? Est-ce qu'il y a des circonstances où vous vous sentez plus vulnérable, plus tenté ?
Oui, le travail et aussi lorsque je fais face à des situations, on va dire, émotionnellement difficiles. Des raisons de santé, par exemple, ou une rupture ou quelque chose comme ça.
Vous l'aimez, votre travail, Sacha ?
Énormément. J'aime mon travail. Mmh. À un moment donné, je viens de changer d'employeur. Je traversais une période très, très difficile au travail. C'était dans un environnement très toxique. Mmh. Et je peux dire que ça a augmenté ma consommation d'alcool. Là, je viens de changer de travail. Et tout le stress lié au changement, ça me donnait envie de boire. Mais heureusement, c'est tombé durant cette période de sobriété. Mais je peux vous dire qu'il m'arrivait de me dire juste prends un verre et ça va aller. Mais je sais qu'une fois que j'ai commencé, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Et la dernière fois que vous avez bu, c'était quand ?
Il y a 3 jours.
Et vous êtes sentie comment ? Est-ce que vous êtes allée, comme vous le dites, jusqu'au bout, c'est-à-dire vous retrouvez en situation d'ébriété, ou est-ce que c'était assez modéré ?
Je sais maintenant, je suis en train de faire attention. J'ai pris, je pense, 2 verres, mais il y a le déclic dans la tête, arrête. Mais tout va bien maintenant, je suis plutôt, on va dire, dans une période assez calme. Mais on ne sait pas si jamais quelque chose recommence à me perturber, si je ne vais pas recommencer.
Alors, on a enregistré cet entretien, mais il y aura le docteur Jean-Pierre Aubert à votre écoute. Il vous écoute en ce moment. C'est quoi la question, Sacha, que vous souhaitez poser à ce médecin qui est spécialiste, justement, qui au quotidien, dans sa consultation de médecin généraliste, reçoit des personnes qui ont un problème vis-à-vis de leur consommation d'alcool ?
Ma préoccupation de sa part, est-ce que vraiment je suis dans une forme de fatalité ou si je dois personnellement décider d'arrêter l'alcool parce qu'il y a clairement un problème, ou sinon est-ce qu'il existe des mécanismes pour justement refréner ce besoin de boire ?
Vous imaginez en parler à l'extérieur, Sacha ? Il existe dans certaines régions du monde des groupes de parole où on est anonyme, hein, bien sûr, c'est pas sur la place publique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, aller échanger avec d'autres hommes, d'autres femmes sur ces problèmes ou pas du tout ?
À cause des problèmes de réputation, oui, je ne serais pas très à l'aise avec ça.
Et en parler à un thérapeute ?
Oui. Oui,
vous avez
oui.
déjà imaginé cette démarche ?
J'avoue que non. Je crains qu'on n'ait pas le... Je n'irai pas jusqu'à dire les compétences, mais je dois avouer, j'appelle d'Afrique, que les questions d'alcoolisme, on ne les considère pas encore comme
une maladie.
Un problème de société. Voilà.
Et un problème de santé, surtout.
Oui, oui.
Ben, on vous remercie infiniment pour votre témoignage et votre franchise, Sacha. Bon courage, parce qu'on sent beaucoup d'énergie et de courage quand vous échangez avec nous. En tout cas, une très jolie détermination. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Docteur Jean-Pierre Aubert, hein, elle est très consciente, Sacha, consciente de ce qui se passe, en même temps consciente de sa vulnérabilité.
Oui, son entretien est extrêmement riche. Il y a énormément d'informations intéressantes et pertinentes. Je ne sais pas répondre à la principale question qu'elle pose, qui est « dois-je arrêter de boire ?» Et je ne sais pas y répondre pour la raison que mon boulot de médecin généraliste, c'est d'accompagner les gens dans la décision qui les concerne et qu'ils vont prendre eux. Donc, voilà. Je sais que je pourrais l'accompagner si elle venait voir. Je sais faire ce genre de choses et l'aider à prendre une décision qu'elle prendra en conscience, hein. Il y a des choses inquiétantes dans ce qu'elle raconte, des signes qui doivent faire percuter. Je commence par ces mauvaises nouvelles. D'abord, elle boit le matin. Et ça, je pense que c'est signe qu'on est réellement dépendant, c'est-à-dire qu'on se réveille le matin en situation d'alcoolémie basse et on a besoin de faire remonter son alcoolémie. C'est un vrai signe de dépendance. La deuxième chose qui est un peu inquiétante, c'est quand elle dit « j'ai pas de limite ». C'est-à-dire qu'elle prend le premier verre et dans certaines circonstances, elle va en prendre 10 derrière. Donc voilà, il y a des éléments inquiétants. Mais à côté, dans ce qu'elle raconte, il y a des choses qui sont extrêmement rassurantes et extrêmement intéressantes. D'abord, bien sûr, elle parle de sevrage prolongé. Elle est absolument capable d'arrêter et donc elle a un vrai contrôle de sa consommation avec une alternance de consommation élevée et de consommation nulle. Mais c'est déjà une vraie liberté par rapport à l'alcool. Et puis, il y a une autre chose qui est très rassurante, c'est que elle ne parle pas du fait qu'on lui ait signalé qu'elle avait une consommation excessive d'alcool.
Donc, elle a une prise de conscience personnelle.
Voilà, il n'y a pas de réaction de son entourage pour l'instant, dont je disais tout à l'heure que c'était très important. Alors, ce qui me paraît important et ce que je voudrais développer dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle utilise l'alcool comme un médicament.
Ouais.
Et effectivement, elle a raison. L'alcool, c'est un médicament prodigieux. C'est même l'un des principaux problèmes que rencontrent les médecins, c'est qu'on n'a pas beaucoup de médicaments aussi efficaces et aussi rapides d'action du point de vue de l'action sur l'anxiété, du point de vue de l'action sur le rapport aux autres et du point de vue de l'action sur la dépression.
Mais il y a un mais.
Le mais, c'est... Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut sortir de cette utilisation médicamenteuse? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments? Ma réponse est plutôt non. Je ne pense pas qu'il y ait des médicaments qui puissent remplacer le besoin d'alcool. Mais par contre, il faut s'interroger sur son rapport au stress, sur son rapport à l'angoisse. Et il y a d'autres outils qu'on peut utiliser.
Ça peut choquer quand on vous entend dire médicaments. Ça veut dire que ça... joue le rôle d'un médicament, mais ce n'est pas un médicament.
Absolument, bien évidemment. Hein. Et c'est un faux ami absolument catastrophique, parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui va vous faire plonger dans la dépendance, mais aussi plonger dans la dépression. Donc c'est vraiment un grand faux ami. Donc voilà, moi je lui dirais, votre rapport au stress, essayez de le jouer ailleurs, dans votre rapport au corps, dans une activité par exemple sportive, dans une activité de relaxation, dans une activité de méditation en pleine conscience, qui sont des façons de s'intéresser à soi-même et d'être dans un rapport au stress qui est un rapport positif et dans un rapport qui va être productif.
Alors on a évoqué brièvement avec Sacha le recours au groupe de parole, hein, même si elle n'y était pas personnellement forcément très très intéressée. On peut dire que votre expérience vous a fait reconsidérer certaines de vos croyances, parce que vous au départ, ces groupes de parole, vous n'y étiez pas très favorable et puis au fur et à mesure, vous avez complètement changé d'optique.
Alors, c'est pas que je n'étais pas très favorable, c'est que j'avais des a priori.
Comme beaucoup de gens.
Les groupes de parole, on les voit dans les films américains.
Exactement.
Ça a un petit côté bien pensant. Et on se dit, ça ressemble un peu à une secte. Enfin, voilà, on a cette espèce d'impression. Voilà. Alors là, les groupes de parole, j'ai une réponse extrêmement simple. Il faut y aller. Voilà. Oubliez tous vos a priori. Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas les groupes de parole. Vous avez le droit de dire que
essayer.
C'est une secte. Mais vous avez le droit de le dire quand vous y êtes allé. Parce qu'il se passe des choses dans les groupes de parole qui sont extrêmement enrichissante et extrêmement importante.
Et une illustration tout de suite, reportage dans Priorité Santé. Pour partager une réunion des alcooliques anonymes à Paris, ce mouvement d'entraide présent en France depuis 60 ans, souvent désigné tout simplement par ses deux initiales, les AA, qui proposent une permanence téléphonique et donc ces réunions pour aider les personnes dépendantes à l'alcool comme leurs proches, avec pour condition... anonymat, bienveillance, AB cette fois, et un événement particulier lors de la venue de notre reporter Raphaël Constant.
Bonjour, je m'appelle José, je suis alcoolique. Dès que je commençais à boire, j'arrivais pas à m'arrêter à un ou deux ou trois verres. J'avais toujours l'impression que continuer de boire, ça allait me rendre meilleur, puisque j'avais une sensation de bien-être qui était là tout de suite. Je continuais, mais je rentrais souvent complètement ivre-mort, quoi. Donc, je faisais que ça, quoi, en fin de compte, sortir et travailler. Donc, j'avais pas vraiment d'autre vie. Quand j'ai commencé à avoir 45 ans, là, je commençais à boire même la journée depuis pas mal de temps. J'étais vraiment, vraiment dans l'alcool. Je me suis aperçu qu'en réalité, j'étais pas capable d'arrêter, que c'était pas possible pour moi d'arrêter. Que, en réalité, le fait d'arrêter, ça me mettait dans un état d'angoisse tellement fort. J'avais plus de boulot, que des dettes, dans un état psychique et physique au bout, quoi. Et là, j'ai commencé à avoir des envies suicidaires. Je me suis dit qu'il y avait plus d'issue. Et j'ai vu un film qui parlait justement des groupes de parole, des AA. Et j'ai appelé. Et pour la première fois, depuis de nombreuses années, j'ai senti cette sensation qu'on m'écoutait, qu'il y a eu un échange. Je me suis aperçu que ça faisait des années où j'arrivais plus à correspondre, à discuter avec personne. J'ai vite compris à la première réunion qu'en réalité, l'alcool, c'est une maladie. et d'entendre que j'étais pas tout seul, de pouvoir en parler, pouvoir discuter avec toutes ces personnes. On me dit de prendre un parrain, bon ben, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, qui est à côté de moi là. À ce moment-là, j'ai commencé à retrouver espoir. Bon ben, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus penser à l'alcool, de ne plus avoir envie de boire, ce qui est déjà incroyable, ni de prendre autre produit. Bon, je ne dis pas que tout va bien, puisque moi, aujourd'hui, je me rends compte que mon problème, il est émotionnel. Avant, pour gérer mes émotions, ben, je prenais un verre. Aujourd'hui, non, j'apprends, grâce à ce programme, à gérer mes émotions. Même si j'ai des petits coups de blues, bon, ben, ça ne dure pas. Et ben, quand j'ai ça, je viens dans un groupe de parole. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis ici. Sans les alcooliques anonymes, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je me sens quand même beaucoup, beaucoup mieux dans ma peau. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je ne bois plus. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, merci à tous. Bonne journée.
Eh ben, merci beaucoup, José.
Et José, j'ai envie de dire, c'est vraiment une belle rencontre. Quand José dit que moi, je l'aide, c'est surtout lui qui m'aide, quoi. Voilà. C'est vrai que je l'ai aidé dans le début, c'était un peu hard, la vérité. Mais finalement, moi aussi, j'ai essayé d'arrêter de boire seul. Et j'ai envie de dire que j'ai mis 15 ans pour comprendre que c'était plus confortable de ne pas boire une goutte d'alcool que d'essayer de boire avec tout ce que j'ai essayé de faire. Je viens, moi, mettre aux alcooliques anonymes, c'est un plaisir. Je viens voir mes amis, quoi. Je vais en réunion un petit peu comme quand j'allais au café avant, quoi. Voilà. Voilà, je te donne la médaille de mes 4 ans. C'est vraiment un plaisir, j'en ai la chair de poule de te la transmettre, José. Voilà.
Ben voilà, la parole est à vous.
Je souhaite un super bon anniversaire, José. Ça me fait vraiment plaisir du fond du cœur de te voir avec 4 ans d'abstinence. Je t'ai vu arriver et c'est formidable. Moi, ça fait 31 ans que je ne bois plus d'alcool. J'ai un parrain depuis 28 ans et je peux l'appeler à n'importe quel moment. Je sais qu'il me rappellera. Si j'ai besoin de lui, il sera là pour moi. Et ça, je ne l'ai trouvé qu'aux alcooliques anonymes. Je ne suis pas fait comme les autres vis-à-vis de l'alcool. Quand je commence à boire, je mets en route un processus que je ne peux pas contrôler. J'ai commencé, j'avais 14 ans. À 17 ans, je buvais tous les jours. À 24 ans, je buvais le matin au réveil. Et à 30 ans, je faisais 2 comas éthyliques par jour. Donc voilà, c'est progressif. Le simple fait de venir régulièrement aux réunions des alcooliques anonymes, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais à un moment donné, l'obsession de boire m'a été enlevée. C'est la chose la plus extraordinaire qui m'est arrivée dans ma vie. Je ne pensais pas que ce soit possible.
C'est toujours très émouvant d'entendre le témoignage d'un ami qu'il ait 24 heures ou 50 ans d'abstinence. Pour moi, c'est toujours le moment le plus important. On a été rejeté, incompris, dans la souffrance la plus noire. Et ici, on redevient des êtres humains. Et moi, ça, c'est... J'ai 47 ans d'abstinence et je suis toujours autant émerveillée comme au premier jour. Grâce à mon abstinence, j'ai pu adopter 2 enfants. Et donc, tout est possible en alcoolique anonyme. On a une nouvelle vie. Mais moi, je n'oublie pas d'où je viens. La souffrance que j'ai pu avoir dans cette période alcoolique, ça me permet, quand j'accueille un ami ou une amie, d'être proche en disant « oui, moi aussi j'ai bu jusqu'à plus soif, je ne pensais plus qu'à ça ». Voilà, bon anniversaire encore et merci de ton témoignage.
Quand je vous écoute et que je vous vois, et comme je commence à avoir une certaine ancienneté, quand je vois la façon dont on est arrivé, c'est-à-dire défait physiquement, intellectuellement, quelques temps après, quand je vois le rétablissement, je suis vraiment sidéré, quoi. Je me considère et comme un miraculé et de l'alcoolisme et de la vie, et en même temps, vous aussi, quoi. Mais je trouve qu'on fait une tribu excellente. Voilà, merci.
Merci.
Et vous retrouverez le lien des AA sur la page de l'émission. Docteur Jean-Pierre Aubert, vous avez suivi ce reportage de Raphaël Constant, groupe de parole, il y en a beaucoup. Hein. On entend la fraternité, qu'on est parti de loin et qu'on est arrivé à quelque chose de positif. Et c'est aussi important quand on parle de démarches complexes, comme arrêter quelque chose auquel on est lié du matin au soir. C'est important de voir le positif de cette chose-là.
Oui, j'ai absolument rien à ajouter à ce qui vient d'être dit dans ce reportage, qui est vraiment parfait. Je disais tout à l'heure que les groupes de parole, il ne faut pas avoir d'a priori, il faut commencer par y aller. Il n'y a pas seulement les alcooliques anonymes, il y en a d'autres. Mmh. Il faut... Voilà, allez voir, ce sont des lieux de fraternité, ce sont des lieux d'amitié, c'est des lieux de progression sur soi-même qui sont vraiment intéressants. Voilà, ils ont tout dit et ils ont tout dit dans le positif. Et finalement, Pas tellement en parlant seulement d'alcool, ils ont parlé aussi de chaleur humaine, d'amitié et de densité relationnelle.
Alors, on va échanger avec d'autres auditeurs, d'autres témoignages à suivre, toujours en votre compagnie, docteur Aubert, à l'occasion de ce mois sans alcool dans Priorité Santé. On se retrouve juste après le refrain « Entêtant » d'Angèle. Bruxelles, je t'aime.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Priorité Santé sur RFI, évaluer sa consommation d'alcool. Toujours en compagnie du docteur Jean-Pierre Aubert, janvier sans alcool. Docteur Aubert, médecin généraliste à Paris, qui a signé aux éditions du CERF Histoire d'alcool au pluriel. Avec donc ce dry January qui a été importé du Royaume-Uni, qui est aussi suivi dans les pays scandinaves. Avec des questions, on va avoir un auditeur en ligne dans quelques secondes. Mais d'abord, j'ai 2 questions Facebook, si vous voulez bien y répondre le plus rapidement possible, parce qu'on a vraiment envie d'échanger avec les auditeurs en direct un petit peu plus tard. On a Gaylord de Kinshasa. Il dit « On m'a récemment diagnostiqué la tuberculose, on est en RDC. Je suis sous traitement, ma seule addiction, c'est l'alcool. Est-ce que la consommation abusive d'alcool peut favoriser le développement de cette maladie ?»
La réponse est plutôt non. Par contre, le vrai problème qu'il va avoir, c'est l'interaction des médicaments avec l'alcool. Ces médicaments qu'on utilise dans la tuberculose sont métabolisés par le foie. Il y a une très forte interaction avec l'alcool. Il faut absolument qu'il se fasse aider s'il est en difficulté avec l'alcool, car il va baisser l'efficacité de son traitement.
La priorité, c'est de combattre l'infection, combattre absolument cette tuberculose. Donc, il faut vraiment, Gaylord, que vous en parliez à un médecin. Il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, OK, je suis malade, mais j'ai en plus un problème dans ma vie de tous les jours. Il faut en parler pour vous faire aider. Deuxième question, toujours la RDC, Lubumbashi. C'est Mutombo. Il a 19 ans et il dit, quels sont les désavantages ? Il demande, quels sont les désavantages de l'alcool sur le cerveau des jeunes gens comme moi ? Est-ce qu'il y a des risques particuliers quand on est jeune et qu'on boit ?
Alors évidemment, on n'a pas d'études pour répondre à cette question actuellement, parce qu'il faudrait pouvoir étudier les gens sur le long terme. Et bien évidemment, pour répondre, on pourra répondre dans 20 ans sur qu'est-ce qui se passe pour tous ces jeunes qui consomment de l'alcool dans ce qu'on appelle le binge drinking, d'un terme anglais que je n'aime pas, qui est tout simplement la défonce alcoolique. La réponse, on l'a à moitié, parce qu'on a une très bonne réponse aujourd'hui sur la consommation de cannabis, en particulier entre 14 et 18 ans, qui diminue de façon claire les performances intellectuelles des jeunes gens. Et comme la plupart des jeunes gens qui sont dans le binge drinking sont dans l'abus de cannabis, on a au moins la certitude qu'il y a une toxicité sur leur cerveau.
consommation associée. Alors d'autres questions, d'autres témoignages. Lubumbashi, l'RDC, tout de suite. Emmanuel en ligne. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, vous avez 34 ans. Vous buvez depuis combien de temps?
Ça fait environ 10 ans que je prends de l'alcool, et principalement de la bière.
De la bière surtout. Vous buvez avec qui? Vous buvez dans quelles circonstances? Ou dans des bars chez vous?
Souvent dans des terrasses avec des amis.
Oui.
Après le boulot. Souvent, on a l'habitude de se retrouver dans des bistrots, des terrasses avec des amis, en train de parler, en train de consommer de la bière.
Et pour vous, cette habitude, c'est lié à quoi pour vous? C'est lié à un problème dans votre vie ou pas vraiment?
Je pense ça. Hein, je pense que ça doit être ça, parce que j'ai essayé à mon niveau d'arrêter, mais ça ne va pas. Mais je pense que j'ai un problème purement professionnel. Mm-hmm. Je pense que ça peut être ça. Je suis embauché dans une entreprise.
Oui.
Donc, de formation, je suis d'abord ingénieur.
Oui.
Je suis embauché dans une entreprise où on ne me met pas à ma valeur, donc à mon niveau d'ingénieur. Je ne suis pas payé comme un ingénieur, mais on m'utilise comme un ingénieur. Donc, je fais tout ce que je peux faire, je fais des exploits. Mais on ne me paye pas à l'auteur de ce que j'ai fait.
On peut dire, Emmanuel, que vous sentez un petit peu exploité, c'est ça?
Oui. Un petit peu trop.
Carrément exploité. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de boire? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Oui, j'ai arrêté de boire à un moment. J'avais fait environ 2 semaines sans boire. C'était bien parce que c'était le temps où j'étais en congé. Pendant mon congé. Et quand j'ai repris le boulot, j'ai vite repris encore avec la bière. C'est pour cela que j'ai vu que c'était peut-être en rapport avec ça.
Et ces excès de boissons, est-ce que ça a des conséquences sur votre vie de famille?
Oui, souvent quand je rentre le soir. Souvent je prends la bière, c'est après le boulot.
Ouais.
Après le boulot, je prends la bière. Quand je rentre à la maison, je suis un peu saoul. Difficile de bien manger.
Ouais.
Et ma femme me fait toujours un peu de reproches par rapport à ça. Et je sens que ma vie de couple est en train de déséquilibrer un peu.
Déséquilibrer. Mais votre femme, elle vous dit quoi? Elle vous dit, Emmanuel, tu as trop bu? Ou elle vous dit, Emmanuel, je n'aime pas la manière dont tu me parles?
Elle me dit que tu t'enivres chaque jour.
Ouais, donc, elle met le doigt dessus. Et quand elle vous le dit, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'elle a raison ou vous pensez qu'elle exagère?
Elle a raison. Parce que c'est chaque jour pratiquement après le boulot que je fais ça. Mais en week-end, ça m'arrive rarement. Quand je suis à la maison, souvent je passe tout le week-end à la maison avec les enfants et la famille.
J'ai une question bizarre à vous poser, Emmanuel. Est-ce que vous avez les moyens de changer de travail ou ce travail, c'est le seul qui est disponible dans la région?
Ici, chez nous, l'emploi est très difficile.
Oui, c'est difficile.
Ce n'est pas facile, oui. Ce n'est pas facile. Le taux de chômage est de l'ordre de 80%.
Ouais, je sais bien. C'est pour ça que je posais cette question avec précaution. Alors, le docteur Robert vous écoute. Vous avez besoin de quel type de conseil?
Je voulais que je ne sois pas... Que ce problème-là ne m'amène pas à l'alcool. Donc, je crois que ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de prendre l'alcool, mais la solution, c'est peut-être de chercher d'autres chemins pour résoudre ce problème-là.
Docteur Jean-Pierre Aubert, qu'est-ce que vous pensez de cet échange avec Emmanuel? On voit là directement, il pointe ce lien avec son activité professionnelle.
Oui, je pense qu'il le pointe sur un versant, là aussi un peu médicamenté, mais plutôt sur le côté antidépresseur de l'alcool. Je pense qu'il cherche dans l'alcool une certaine distance par rapport à son boulot, par un certain oubli. Et donc, il est clair qu'il a à réfléchir sur la question sociale et le problème social qui est sous-jacent, ce qui n'est évidemment pas facile, parce qu'on n'est pas toujours libre de changer de boulot quand on le veut. Je voudrais insister sur une chose dans ce que vous dites, Emmanuel, c'est que vous dites... J'ai l'habitude de boire le soir quand je rentre du boulot. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez là-dedans, c'est que pour une part, c'est ce que vous décrivez comme une habitude, c'est un besoin biologique. Ça s'appelle le craving. Hein. C'est dans certaines circonstances qui se répètent un peu tous les jours, c'est-à-dire probablement le retour du travail, le moment de décontraction, l'arrivée dans la maison, toutes ces choses qui sont des éléments de votre vie déclenchent un besoin de boire parce que c'est inscrit quelque part dans votre conditionnement. Hein. Je pense que vous devez avoir conscience que ce besoin se déclenche dans cette circonstance et que le simple fait d'en avoir conscience, ça va vous aider à prendre de la distance. Vous allez voir, si vous vous dites, en rentrant du boulot, avant d'arriver à la maison, si vous vous dites, attention, je vais ressentir le craving quand je serai à la maison, le simple fait de l'avoir conscientisé, de l'avoir verbalisé, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à l'aise parce que quand vous allez le ressentir, vous allez dire, tiens, effectivement, c'est bien ça qui déclenche le besoin.
Emmanuel, si vous disiez, j'arrête, on parle de ce mois sobre, hein, janvier en France, une campagne de santé publique. Si vous disiez, j'arrête pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est quelque chose qui vous fait peur ?
Oui, un peu.
Un petit peu. Bon.
Oui.
Eh ben, on va écouter d'autres témoignages d'auditeurs. Peut-être que ça va vous motiver. En tout cas, bon courage à vous et très très bonne journée à Lubumbashi. On prend maintenant la direction du Tchad.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
Armel, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, j'y vais directement, Armel. Je vous pose la question. Vous buvez depuis combien de temps ?
Oui. Il y a 26 ans, depuis quand j'avais 20 ans.
Mmh.
Je buvais, on buvait avec les amis. Et depuis ce temps, je buvais un peu de trop. Et je ne faisais pas la guise. L'autre, la parité avec les boissons fortes, les bières. Et des fois, un peu tôt, tard, n'importe quel.
Et là, par exemple, la dernière fois que vous avez bu, c'était quand ?
Bon, maintenant, la dernière fois, c'était le passé une semaine.
Il y a une semaine ?
Oui.
Et vous buvez pourquoi ? Cette question, elle peut paraître bizarre, mais vous buvez pourquoi ? Vous avez une activité professionnelle ou la journée, vous ne faites pas vraiment grand-chose ?
Bon, je n'ai pas une activité professionnelle, je suis en chômage.
Ouais.
Bon, avec les amis.
Est-ce qu'il y a des amis qui vous font des réflexions sur votre consommation et qui vous disent « Armel, tu es jeune, il faudrait peut-être arrêter de boire comme ça ?»
Ah oui, oui, les amis. Et deux fois j'arrête, une semaine, et je les forme dedans, je fais encore plus.
Vous reprenez plus, c'est encore pire une fois que vous avez arrêté. Armel, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter vraiment sans reprendre ou c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ?
Arrêter, deux fois j'arrête un mois, et je reprends. Définitivement, je n'arrête pas encore.
Pourquoi vous reprenez ?
Des fois, c'est le stress, le chômage qu'on avait rien à faire, avec les amis.
On a entendu tout à l'heure Jean-Pierre Aubert. Merci beaucoup, Armel, pour ce témoignage. Emmanuel, qui buvait parce qu'il avait trop de stress au travail, parce qu'il n'était pas dans son élément. Là, on a Armel qui n'a pas de travail et qui boit parce qu'il s'ennuie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à justement ce stress généré par l'activité ou la non-activité professionnelle ?
Je ne répondrai pas comme ça. Armel, je pense que mon impression, c'est que vous êtes malheureux et ça ressort de votre façon de parler. Vous n'êtes pas bien dans votre peau et vous êtes malheureux. Vous buvez probablement parce que vous êtes malheureux, mais vous êtes malheureux aussi parce que vous buvez. Vous ne vous aimez pas dans ce personnage que vous affichez et que vous ressentez. Et puis, il y a des signes dans ce que vous racontez qui sont des signes de très forte dépendance. Vous dites que vous buvez tôt le matin, que vous buvez beaucoup, que vous n'êtes pas libre. Clairement, vous êtes quelqu'un qui est un vrai dépendant de l'alcool. Je pense que vous êtes malade de l'alcool et que vous en avez déjà pris conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis très optimiste sur ce que vous êtes et sur ce que vous allez devenir. Parce que le chemin qu'on doit faire pour sortir de cette dépendance, qui est une vraie dépendance, là, qui est vraiment quelque chose de pathologique, vous êtes dans une situation de maladie, Ce chemin, vous en avez déjà fait les trois quarts. Les trois quarts du chemin, c'est être capable de dire, en gros, je suis alcoolique. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais je pense que c'est ce que vous vivez. Et parce que vous avez fait ce chemin-là, que vous êtes capable de dire, j'ai un problème majeur d'alcool, vous allez en sortir. Finalement, il vous reste un petit quart de chemin à faire. Vous ne voyez pas que c'est un petit bout, mais je vous promets que c'est un tout petit bout et que le plus grand bout du chemin, vous l'avez déjà fait. Alors, avec qui vous allez le faire? Je ne sais pas. Vous allez probablement rencontrer votre médecin. Vous allez probablement rencontrer des structures spécialisées. Je ne sais pas s'il en existe dans votre pays. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr qu'il existe dans votre pays, c'est des groupes de parole. Et je vous incite vraiment à aller travailler là-dessus parce qu'il vous reste un petit bout de chemin à faire pour sortir de votre dépendance et vous allez y arriver.
Armel, est-ce que vous oseriez en parler à un médecin?
Oui.
Vous pouvez aller voir un médecin et dire, voilà... Moi, j'ai envie d'arrêter de boire, j'y arrive pas tout seul, il faut m'aider, qu'est-ce que je peux faire?
Oui.
Vous savez, il y a le secret médical, le médecin n'en parlera pas à l'extérieur, ça restera entre lui et vous, c'est quelque chose d'important, la famille ne sera pas forcément au courant. Donc c'est votre histoire à vous, c'est votre parcours personnel.
Oui.
Vous en pensez quoi? Parce que j'entends ah oui, mais j'entends pas un enthousiasme forcené, hein?
Oui, je suis prêt à partir voir mon médecin.
Bah, c'est un conseil que vous a donné le docteur Aubert, c'est quelque chose d'important de prendre soin de vous. C'est vrai qu'on entend ces témoignages avec des différentes impulsions de la part des personnes qui constatent qu'il y a un problème d'alcool. En ce qui concerne l'accompagnement, on revient à notre sujet du jour, hein, c'est la conclusion, docteur Aubert, ça va très vite. Moi sans alcool... Quand on choisit d'arrêter de façon volontaire, on n'est pas accompagné. Mais quand on a un problème, une dépendance vraiment qui s'approche d'une maladie, là, il y a vraiment matière à être suivi par un professionnel de santé.
C'est absolument indispensable. Hein. Je pense que Armel va pouvoir le faire. N'Djamena est une grande ville. C'est pas le fin fond de la brousse. Il trouvera tous les soutiens dont il a besoin. Je suis certain que voilà, il va pouvoir avancer réellement.
Avec peut-être un dernier mot sur les effets immédiats qu'on voit quand on arrête de boire et qu'on peut constater justement quand on s'engage dans cette démarche bénévole. On peut dire qu'un des premiers effets, ça va être assez rapidement sur le sommeil par exemple ou sur la fatigue.
Oui, alors sur le sommeil, ça ne va pas être immédiat et il va probablement falloir des médicaments dans un premier temps pour l'aider à dormir parce qu'un des grands problèmes qu'on a quand on arrête de boire, c'est qu'on ne dort pas. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, on va retrouver un équilibre veille-sommeil qui va se réinstaller. On va retrouver ce comportement banal de mammifère qui fait que quand le soleil se couche, on a envie de dormir.
Et ça fait du bien. Merci beaucoup, docteur Aubert. On vous remercie hein, d'avoir répondu, d'avoir échangé avec les auditeurs de Priorité Santé. Je renvoie donc à cet ouvrage. Ce sont autant de portraits, parcours de vie, histoire d'alcool. Peut-on en parler à son médecin aux éditions du CERF.
Priorité santé sur RFI.
Un site d'information dédié aux troubles du sommeil. On en parlait, troubles du sommeil chez les enfants concernés par les troubles du spectre de l'autisme. C'est nouveau. On en parle avec vous, professeur Carmen Schroeder. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Vous êtes psychiatre au CHU de Strasbourg. Ce site, il s'adresse à la fois aux parents, aux professionnels. Alors, quel type d'informations ces publics pourront-ils trouver sur cette plateforme dédiée?
Alors, cette plateforme dédiée est vraiment là pour informer sur la fréquence et la raison des troubles du sommeil associés aux troubles du spectre de l'autisme et pour y trouver tout de suite aussi des remèdes, c'est-à-dire des informations tout à fait pratiques sur comment améliorer le sommeil d'un enfant avec autisme sans médicaments ou encore quels médicaments peuvent être utilisés si jamais des méthodes non pharmacologiques ne sont pas suffisantes.
Alors, est-ce que les enfants justement qui sont concernés par l'autisme, qui sont touchés par ces TSA comme on dit, présentent des troubles particuliers, dorment d'une façon on va dire différente?
En partie, oui. Déjà, les troubles sont beaucoup plus fréquents. Environ 2/3 des enfants souffrent de troubles du sommeil importants. Et ces troubles se caractérisent par à la fois une difficulté à s'endormir, mais surtout des réveils nocturnes qui peuvent être très longs. Donc, il n'est pas rare que les enfants sont réveillés 1 à 3 heures par nuit. Et vous pouvez vous imaginer quelles répercussions ça a sur le comportement de la journée, mais aussi sur la famille. C'est pour ça qu'il faut absolument les repérer, poser systématiquement des questions si vous êtes professionnel. appel aux familles concernées concernant le sommeil pour adresser ces difficultés.
Ça veut dire qu'après une mauvaise nuit, eh bien, l'enfant risque d'avoir une journée encore plus compliquée, donc bien prendre conscience qu'il faut ce repos pour faciliter ensuite le déroulement en période d'éveil.
Tout à fait, parce qu'on a bien pu montrer dans de nombreuses études que quand un enfant avec autisme ne dort pas bien, ça va avoir des répercussions et aggraver la symptomatologie de l'autisme de la journée, c'est son apprentissage, son comportement, il y a plus de crises de colère, plus de difficultés d'être attentif, et aussi on a vu que ça a un impact énorme sur la qualité de vie des familles.
Alors, est-ce que ça veut dire, tout à l'heure vous parliez médicaments ou pas, qu'il y a des changements concrets qui peuvent vraiment améliorer certaines situations qui peuvent être critiques ?
Absolument. Donc, de toute façon, il faudrait d'abord une approche non médicamenteuse, donc sur les bons comportements autour du sommeil, éventuellement des approches comportementales. Mais si ce n'est pas suffisant, et ça peut être le cas pour la majorité des enfants avec autisme, que ça ne suffit pas, il faut pouvoir bénéficier des nouvelles approches thérapeutiques et en première ligne des traitements à base de mélatonine, parce qu'on a bien pu démontrer que les enfants avec autisme ne produisent, ne sécrètent pas assez de mélatonine. Donc il s'agit vraiment là d'une logique de substitution et il y a des nouveaux médicaments effectivement qui ont une autorisation de mise sur le marché en France.
Est-ce que ça veut dire que toutes ces informations, elles sont regroupées parce qu'avant, eh bien, y compris du côté des soignants, on manquait de ressources pour avoir une approche complète sur ces troubles particuliers du sommeil chez ces enfants ?
Absolument. Donc, en fait, on savait que les enfants ne dormaient mal, mais on pensait souvent que c'était un épiphénomène, en quelque sorte, de l'autisme. Aujourd'hui, on sait qu'on peut les prendre en charge, on sait comment faire, et on sait qu'on va considérablement améliorer les symptômes de l'autisme chez les enfants et aussi leur bien-être général et celui de la famille.
Ça veut dire que c'est quelque chose de très important, par exemple, pour des familles qui nous écoutent et qui, on va dire, se battent depuis des années au moment du coucher. On sait qu'avec les enfants, ce n'est pas toujours très simple. Et puis aussi, au moment, en pleine nuit, quand ils sont réveillés par des appels de l'enfant, ça veut dire qu'avec des conseils, un apprentissage commun et un suivi, on peut changer les choses ?
Absolument. Dans la grande majorité des cas, on trouve des solutions à ces difficultés. Et j'ai vraiment envie de dire aux familles, parlez-en à votre médecin, à la personne qui vous suit, au référent de parcours de votre enfant. Il y a vraiment des choses à faire et on trouve une solution dans la grande majorité des situations. Une première orientation pourrait être ce site qui donne toutes les informations valables qui ont été préparées pour vous par un comité d'experts, donc à la fois des spécialistes en pédopsychiatrie, en neurodéveloppement, et des chercheurs dans le domaine de l'autisme et du sommeil.
Et vous avez eu des retours parce que ce site, il a été lancé il y a quelques mois seulement. Est-ce que vous avez eu déjà des retours de la part de ses utilisateurs ?
Tout à fait. La première cible était des professionnels et nous avons des excellents retours. Donc en fait, souvent, c'est vu en équipe et après, les équipes mettent en place des stratégies qui sont proposées. On a eu des excellents retours de leur part. Et on va maintenant travailler sur une adaptation pour les familles. Donc les familles peuvent déjà consulter les modules existants, mais on va tenter de les rendre encore plus concrets pour les familles.
Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage, hein. Professeur Carmen Schroeder, je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU de Strasbourg. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurence Nau avec nous aujourd'hui. Demain, dans Priorité Santé, on va parler des maladies qui touchent les artères. Athérosclérose, anévrisme, AVC, prévention, facteurs de risque, prise en charge. Et bien sûr, comme chaque jour, vos questions en direct. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année!